Bonjour, ici Radio Grand Ciel, studio de Châteaudun, dans le cadre de nos émissions Histoire et Mémoire. Nous allons aujourd'hui avoir un entretien à bâton rompu entre M. Boumbé et M. Galerne pour parler de l'esclavage tel qu'il est vécu en fonction des continents, car l'esclavage n'est pas spécifiquement, bien que traditionnellement, une histoire d'Afrique vers les États-Unis. C'est beaucoup d'autres choses. Et maintenant, je vous laisse la parole et je laisse l'introduction à M. Galerne qui va mener les débats.
Alors, M. Boumbé, c'est une année donc importante, 2018, puisque 1848, Schœlcher, 170 ans après, l'esclavage était aboli, l'Afrique a payé un lourd tribut. Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes né là-bas, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette période difficile pour l'Afrique, cette période qui a vu l'esclavage de ses populations?
Oui, c'est... C'était une période difficile. Et comme vous l'avez souligné, à juste titre, l'Afrique a payé un lourd tribut, car l'Afrique a été décimée. L'Afrique était malmenée, pour parler tout simplement. L'Afrique a perdu beaucoup de ces hommes, des jeunes, et ces jeunes-là n'étaient plus revenus. Bien. Alors, l'esclavage, comme vous l'avez dit, ne se limite pas. Bon, tout au moins, moi, je peux dire que l'esclavage ne se limite pas à un continent. Ça a toujours existé. Chez les Grecs, il y a des esclaves. Chez les Romains, il y a des esclaves. Mais la différence entre l'esclavage ordinaire et la traite négrière, c'est que les autres esclaves, les esclaves du temps des Grecs, des Romains, c'était des esclaves circonscrits. Bon, cela ne veut pas dire que les esclaves libérés redeviennent... des gens normaux, mais toujours est-il que, en ce qui concerne les Africains qui étaient déportés aux États-Unis, eh bien, ils ne revenaient plus. Non seulement ils ne revenaient plus, mais il faut voir aussi les conditions dans lesquelles ils sont déportés. Bon, vous avez certainement vu des photos. Comment ils étaient entassés dans des bateaux, hein, comme des sardines. On les jetait à la mer. Voilà. Sur 500, 400, il y a peut-être 100, 200 qui arrivent à bon port, entre guillemets.
Ils étaient arrachés à leur famille ou arrangement, ou vraiment... enlevé, on peut dire. Il y avait des jeunes hommes, certes, il y avait peu de jeunes femmes, je pense que c'était surtout une main-d'œuvre robuste que l'on cherchait, non ? C'était pas ce que cherchaient un petit peu ces marchands d'esclaves, non ?
Oh, je peux dire que tout le monde faisait l'affaire, hein, homme comme femme. Et il y a des documents sur lesquels on voyait des femmes avec des enfants au sein, hein. Et c'est surtout les gens valides, les jeunes, qui étaient recherchés.
Alors, vers quelle époque il y a eu le plus de, on va dire le mot, le plus de déportations vers les États-Unis, vers certaines îles proches des États-Unis, Martinique, Guadeloupe, Haïti, etc. Vers quelle époque à peu près on a plus de déportation,
c'était continuel, ça existait de tous les temps. ça existait de tous les temps, puisque c'est lié à une certaine forme de commerce, le commerce triangulaire. Il fallait chercher de la main-d'œuvre pour les plantations. Et les produits de ces plantations étaient vendus en Europe. Donc ça existait de tous les temps. Bon, c'est pour dire que tout le monde a sa part de responsabilité, y compris les Africains eux-mêmes. Mais le fait est qu'il ne peut pas avoir de marchandises sans acheteurs. Si il y a des marchandises, c'est qu'il y a des acheteurs. Si vous vendez un produit qui ne trouve pas preneur, vous ne pouvez pas continuer.
Et vous disiez que les Africains avaient une part de responsabilité. Pourquoi ?
Oui, les Africains ont une part de responsabilité, en ce sens que certaines tribus se faisaient la guerre. Se faisaient la guerre et livraient leurs prisonniers à d'autres tribus qui disposaient de ces prisonniers-là. Et ce qui fait que des Africains qu'on attrapait se retrouvaient au port, voilà, parce qu'on les attendait. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de marchandises.
Mmh. Oui. Mais alors, ce qui est assez effroyable, c'est qu'il les achetait pour une poignée d'argent, on peut dire. C'était quelque chose. La valeur de l'être humain, entre guillemets, était ramenée à sa plus simple expression.
Eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est maintenant une question de conception de la valeur humaine. La valeur humaine. Alors, bon, ce n'est plus une question de religion. Ce n'est plus une question de religion, puisque tout ce qui participait à l'esclavage avait plus ou moins une religion. Il y a d'un côté les Arabes aussi, hein, qui étaient de la partie, ils avaient une religion. Les acheteurs, les chrétiens, ils avaient une religion. Donc, tout dépend maintenant de la conception qu'on a de l'être humain. Vous voyez ?
Mais quand ces acheteurs donc, venaient d'autres pays, notamment de l'autre côté de l'océan, ils venaient donc, entre guillemets, faire leur marché en Afrique. Quoi.
Oui, ils faisaient leur marché en Afrique.
Et il n'y avait pas de rébellion de la part des Africains face à cela ?
Ben, c'est une question de rapport de force. Que pouvez-vous faire avec des flèches contre des canons ? Des fusils ?
C'est vrai.
Ben oui.
C'était.
Oui. Non, c'est une question de rapport de force.
Et il y avait pourtant parmi ces hommes et ces femmes, il y a eu quand même des gens qui avaient donc intellectuellement quand même des ressources quand même. C'est pas parce que l'Africain n'était pas seulement entre guillemets. Une masse de muscles. Il avait autre chose, quand même. Donc, il y en avait peut-être qui, dans le lot, se sentaient pas très bien, ou comprenaient très bien ce qui se passait, non ?
Ben oui, mais vous parlez des ressources intellectuelles à l'époque de l'esclavage. Vous savez que la pénétration coloniale, ça se situait aux alentours du début du 19e siècle. Au 19e siècle, on n'a pas encore, la colonisation n'a pas encore construit des écoles, en Afrique par exemple. Donc où est-ce que ces Africains-là, qui n'avaient même pas une idée de ce que c'est que l'Amérique ou de ce que c'est que l'Europe, quelles ressources intellectuelles pouvait-il avoir pour dire, écoutez, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et d'autant plus que vous nous parlez de Dieu. Vous voyez, vous nous parlez de Dieu, et en même temps, vous fermez les yeux sur ce qui se passe. Donc le raisonnement intellectuel n'a plus de sens dans ces conditions-là.
Eh bien, faisons maintenant une petite pause musicale. Nous reprenons maintenant notre causerie au sujet de l'esclavage qui est un phénomène en fait mondial comme on l'a déjà un peu vu et sous diverses formes.
Oui, alors si vous me permettez, on parlait justement de l'Afrique, oui, mais est-ce qu'avant cette déportation vers les États-Unis, vers les plantations des planteurs qui exploitaient beaucoup de main-d'œuvre à bon marché et qui en plus bénéficiaient des enfants de ces esclaves. Ils en bénéficiaient par la suite, ils enrichissaient leur propriété, donc c'était une véritable organisation autour de ça. Mmh. Mais est-ce que l'Afrique avant avait déjà connu l'esclavage ?
L'Afrique avait connu l'esclavage, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'esclavage, c'est un phénomène universel. Oui, même dans les pays civilisés, comme on le dit, en Grèce, chez les Romains, il y a toujours l'esclavage. Toujours l'esclavage. Le tout est de savoir comment cet esclavage-là est pratiqué. Voilà. En ce qui concerne l'Afrique, il y a l'esclavage, on faisait des razzias, mais il y a un moment où l'esclave retrouve sa liberté. L'esclave retrouve sa liberté, il peut soit s'en aller, soit rester dans la maison de son ancien maître et se marier dans la maison de son ancien maître. Bon. Et la dialectique du maître de l'esclave, sans pour autant se référer à Karl Marx et bien d'autres. Une fois qu'on a perdu son indépendance, une fois qu'on est attaché à un maître, eh bien, on a du mal à quitter son maître. Tout comme le maître lui-même, une fois qu'il est servi, une fois qu'il ne fait rien de ses 10 doigts, il a du mal à retrouver une autonomie. Il lui faut toujours son esclave à côté. Voilà. Mais la différence entre l'esclavage domestique qui subissait en Afrique et la traite des nègres, c'est que l'esclave nègre qui est déporté aux États-Unis ne revient plus. Il ne revient plus. Voilà. Il y a un chemin pour aller aux États-Unis, mais il n'y a pas un chemin de retour.
Voilà. Intéressant, vous voyez, c'est que oui. Vous faites le lien entre l'esclave et le maître. Et nous avions, il y a à peu près 50 ans, il y a eu des fouilles qui ont été faites dans un village tout près d'ici, à Cloix. Oui. Et on a trouvé donc des cercueils mérovingiens. Et on avait trouvé un cercueil qui était au pied des maîtres. Et on a déduit que c'était un esclave qui était enterré au pied de ses maîtres. Il était extrêmement lié avec ses maîtres. Mmh. Il avait été enterré avec la famille. Il y avait le père, il y avait la mère, il y avait les enfants, et il y avait l'esclave, mais l'esclave était mis perpendiculairement au pied de ses maîtres. Absolument. Bon, alors, on peut voir plusieurs connotations, mais il y a notamment la connotation de voir que c'était, comme vous le disiez fort justement, c'était fort lié. Il arrivait un moment où l'esclave, peut-être, avait-il trouvé une famille, je ne sais pas.
Oui, ce sont des pratiques qui existent ailleurs aussi. Il y a des sociétés dans lesquelles il y a tout un rituel pour l'enterrement. Le noble n'est pas enterré seul. Il faut qu'il soit toujours accompagné. Ça peut être des esclaves, mais ça peut être des gens bien indiqués pour l'accompagner.
Et est-ce que c'était, on parlait des esclaves d'Afrique, est-ce que c'était l'ensemble de l'Afrique, c'est la même chose, parce qu'on a dit souvent, bon, il y avait en Afrique des gens qui avaient donc un physique extrêmement donc généreux, oui. Des gens très grands, très forts, et est-ce que c'était pas le cas de toute l'Afrique? Alors est-ce que ça n'a pas été centré sur une partie d'Afrique?
Alors, les inégalités, l'inégalité, c'est quelque chose de naturel. Déjà, les doigts de la main ne sont pas, non, pas tous la même longueur. Bon, inégalité. Bon, c'est pour dire qu'il y a des régions où l'esclavage sévissait moins que dans d'autres. Mais l'esclavage, c'est l'esclavage. Priver quelqu'un de sa liberté, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime et c'est d'autant plus criminel que cela peut venir d'une société dite civilisée. Vous voyez ? D'une société qui doit apprendre la justice, doit apprendre l'amour du prochain et qui justement effectue des missions pour cela sur d'autres continents. En Afrique, par exemple, le christianisme a toujours existé. Et l'esclavage aussi a toujours existé. Quand moi je lis Montesquieu de l'esclavage des nègres, ils ont les nez écrasés, si écrasés qu'on ne peut pas les plaindre. Heureusement qu'ils sont là pour nous faire du sucre. Vous voyez ? Et ça peut paraître révoltant quand des gens qui sont d'une culture, d'une civilisation supérieure, puissent arriver à ce genre de raisonnement. Au point de dire aujourd'hui qu'il y a un esclavage moderne. L'esclavage moderne. Je ne pense pas que on est à court de vocabulaire au point de confondre, de comparer une mort à une maltraitance qui ne débouche pas forcément sur la mort. Un ouvrier qu'on exploite, qu'on paye moins, ça n'a rien à voir avec un noir qu'on déporte et qui ne revient plus chez lui en Afrique.
Oui, parce que
c'est peut-être pour avoir une bonne conscience.
Oui, parce que la question que vous posez, est-ce qu'on peut qualifier l'esclavage?
Ben oui, est-ce qu'on peut qualifier une exploitation, l'exploitation d'un ouvrier qui n'est pas bien payé, mais qui retrouve sa famille le soir? On peut le comparer à un esclave qui ne revient plus. C'est la question qu'on peut se poser.
Eh bien, nous allons faire un autre moment musical. Reprenons notre conversation sur l'esclavage à Radio Grand Ciel Châteaudun pour parler maintenant des formes modernes d'esclavage, et y compris lorsqu'il y a un conflit entre deux pays et qu'un pays est dominant et occupe l'autre, n'y a-t-il pas là aussi une forme de, comment dirais-je, d'esclavage?
Oui, justement, nous avons hélas traversé en France des moments un petit peu difficiles et tous les ans il y a des commémorations, des choses, etc. On oublie justement de parler de cet aspect où on parle des aspects plus militaires, mais on parle moins de ces hommes et ces femmes qui ont été, là encore, je reprends ce mot, déportés pour ces gens qui, ce qu'on appelait le service du travail obligatoire, qui sont allés travailler. Et puis, ils ne rentraient pas chez eux le soir. Ils sont partis pour un long séjour dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. C'était même plus effroyable parce que certains pensaient même qu'ils pouvaient être partis faire les moissons en Ukraine. En réalité, c'était bien plus terrible que cela, puisqu'on allait jusqu'à l'extermination de ces travailleurs qui ne pouvaient plus être performant, entre guillemets. Ça a été le cas notamment des femmes et des jeunes enfants ou des enfants qui n'entraient pas dans l'appareil productif et qui, à partir de ce moment-là, n'étaient même pas considérés comme des esclaves qui pourraient rapporter quelque chose. Et c'est l'esclavage des temps modernes, ça fait un peu partie de tout cela.
Oui, ça fait partie de tout cela. L'exploitation a privé une personne de sa liberté, c'est la rendre esclave, hein. Oui, c'est rendre la personne esclave. Tout comme ne pas reconnaître un travail à sa juste valeur, c'est aussi une forme d'esclavage. Alors, bon, reste maintenant à savoir. Dans quel contexte cet esclavage-là se pratique? Et alors, bon, tout à l'heure, vous avez parlé de guerres entre les États. Guerre entre les États. Bon, reste à savoir si ce sont ceux qui déclenchent ces guerres-là qui sont responsables, ou ce sont ceux qui en meurent qui sont responsables. C'est la question qu'il faut se poser. Et puis, bon, l'esclavage revêt plusieurs formes, hein, ça c'est sûr. Et même en Afrique, on est toujours esclave en Afrique. On est toujours esclave. Si c'est pas par la traite. C'est par le mode de gestion de nos sociétés. C'est par la manière dont on est gouverné. Et il y a toujours le commerce triangulaire, hein, en ce qui concerne l'Afrique. Toujours.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire. Nous, on est des citoyens africains, mais le citoyen africain n'a pas voix au chapitre. Non, ce n'est pas le citoyen africain qui élit son président. Il est élu ailleurs, il est élu à l'extérieur.
Alors, est-ce que vous pensez, par exemple, que le pasteur Martin Luther King, on connaît tous enfin, le rêve de ma, hein, tous,
Oui.
et est-ce que pour le peuple noir, c'était vraiment un guide important, le pasteur Martin Luther King? Est-ce qu'il a réveillé des choses? Est-ce qu'il a. Bien sûr, il y a autour de lui, donc c'était un catalyseur, indiscutablement. Mais est-ce que. Il a laissé quelque chose qui a pu. Est-ce qu'il a ensemencé? Est-ce qu'il a fait des choses qui ont continué à pousser derrière pour vous?
Bon, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais je peux aussi vous demander de préciser est-ce que le révérend Martin Luther King a droit de faire ce qu'il avait fait Est-ce que il a laissé un héritage? Est-ce qu'il mérite d'être encensé, entre guillemets? Ce sont des questions qu'on peut se poser.
Bon, oui.
En d'autres termes, moi je pense que devant une situation donnée, il faut agir. C'est humain. Quand on a mal, eh bien on cherche à enrayer le mal. Bon. Que son geste n'aboutisse ou aboutisse ou n'aboutisse pas, le mérite qu'il avait, comme les autres d'ailleurs, c'est de dire nous sommes tous des êtres humains. Même si on parle d'une supériorité, il y a des êtres supérieurs, des races supérieures à d'autres, nous sommes des êtres humains, tous, pour la plus simple raison que les êtres supérieurs sont créés par le même Créateur. Je n'ai pas, à ma connaissance, vu un être supérieur qui est sorti de la terre ou qui a créé un autre humain vis-à-vis de duquel il se sent supérieur.
Donc le pasteur Martin Lestrinier, quand même, vis-à-vis des jeunes, quand même, a ouvert une porte d'espoir, quand même. Il a ouvert une porte d'espoir en disant « Oui, certes, vous êtes noirs,
oui.
mais vous êtes des hommes comme les autres. » Et ça, il l'a répété fort.
Oui.
Et comme c'était une époque où on disposait des premières, on peut dire, télévision, médias, etc., ça a eu donc un impact extrêmement fort dans le monde entier, indiscutablement, non ?
Oui, moi je pense que le mérite de... Pardon. Je pense que le mérite des gens comme Martin Luther King, des gens comme Gandhi, c'était de dire à un moment donné, est-ce que vous accepteriez de subir ce que vous nous faites subir ? Voilà leur mérite. Ils sont allés au-devant de la mort. Pour la plus simple raison que quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix d'une vie, eh bien on peut au moins choisir sa mort, la manière de mourir. Bon, je donne peut-être dans l'existentialisme, d'accord ? Dans l'existentialisme. Les existentialistes disent donnons un sens à notre vie. Voilà, la notion de liberté. Vous pouvez refuser d'aller combattre pour le tyran, tout en étant sûr que votre refus vous conduira à la mort. Vous serez passé par les armes. Mais au moins, vous avez choisi une manière de mourir. Plutôt que d'aller mourir au front, eh bien, vous avez choisi de mourir dignement de la main d'un tyran.
En espérant que cette mort, finalement, pourra finalement changer le cours du monde comme... Notre Seigneur l'a vécu lui-même lorsqu'il a été crucifié. Nous vous remercions beaucoup pour cet échange, Monsieur Galerne et Monsieur Boumbé, sur ce thème toujours ancien, mais encore moderne sous certaines formes. Et nous vous disons au revoir.
Merci. Au revoir.